Bienvenue au petit groupe. Alors, vous savez qu'ici, on a mis en place des groupes de maison, des endroits où on prie, où des chrétiens se prient ensemble. Alors, au départ, je voulais les appeler les ch'tis groupes, mais devant l'enthousiasme de Jean-Raymond, et Jean-Raymond a dit pourquoi je voulais l'appeler les ch'tis groupes. Je trouvais ça sympa comme nom. Puis Jean-Raymond me renvoie une réponse, il me dit « Ouais, tu, comme tu veux, mais moi je suis d'origine espagnole, ma femme portugaise. Chez David et Céline, ils sont portugais-brésiliens. Chez les Delnest, Jean-Luc est belge. Et il n'y en a qu'un, il me l'a dit, il n'y en a qu'un, c'est Pierre-Éli et Camille qui sont des vrais ch'tis. » Donc j'ai dit « Bon, allez, je vais me plier... à contre-cœur. Parce que j'aimais bien ch'ti. Mais tant pis, on les appellera les petits groupes. C'est un moyen de trouver la liberté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir un peu que ça concerne les gens de cette église, mais ça concerne chaque personne. Tous, autant que vous êtes appelés à vivre des temps avec d'autres chrétiens dans des cellules plus petites, et de prier avec ces gens-là, d'écouter la parole, enfin de partager des temps, de vivre des relations avec ces personnes pour vous amener à la liberté. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, et je le remarque encore dans ma vie de tous les jours, ma vie de pasteur, que dans les moments intimes où je vis des relations, je vois le Seigneur agir avec puissance dans la vie des gens. Et ça me touche énormément parce que je me dis, tiens, le culte, c'est bien, mais qui ici peut dire qu'il a vraiment vécu des relations avec quelqu'un intime, proche, amical avec quelqu'un? Vous voyez peut-être pour la première fois, certains d'entre vous, dans le culte, c'est super sympa, entre mari et femme, moi, j'espère. Mais vous avez besoin, j'ai besoin de relations où, dans ces relations, je vais trouver la liberté. Je répète, vous avez besoin, j'ai besoin de temps où je vais vivre dans des petits groupes, les ch'tis groupes, les petits groupes, et où je vais trouver la liberté. On aurait dû vraiment appeler ça les ch'tis groupes, hein, histoire de brère, comme on dit dans le Nord. Voyez, vous avez l'exemple parfait de quelque chose qui peut changer la vie d'une personne et qui change sa vision de l'Église. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce que Pauline nous dit ici, c'est qu'elle nous explique qu'à la fois Dieu a agi à travers les groupes de maison et pendant le culte. Vous avez vu, c'est quand même une façon de faire de la part du Seigneur qui est belle, je crois. Il utilise à un moment donné où l'Église est rassemblée, mais des moments où les gens sont un peu plus dans l'intimité. Vous savez que de vivre des temps de prière ensemble, de vivre dans un groupe de maison, de prier dans les maisons, c'est un modèle biblique. C'est quelque chose que Dieu a mis dans le cœur des premiers croyants, dès le départ. Et regardez ce qui est écrit. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il y avait une action combinée, si je puis dire, du Saint-Esprit, de l'œuvre de Dieu dans le temple. Ils se réunissaient dans le temple et dans les maisons. Et que faisaient-ils? Ils ne cessaient d'enseigner et ils ne cessaient d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est quoi la bonne nouvelle? Tout à l'heure, Dorian nous l'a très bien dit pendant la louange. La nouvelle, c'est que nous sommes privés de la présence de Dieu. Tous autant que nous sommes, à cause de notre péché, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes incapables d'entrer. Et c'est dommage parce que j'ai oublié de le faire. Cette semaine, nous sommes allés en Italie avec mon épouse, nous reposer 3 jours, dans la ville de Roméo et Juliette, à Vérone. On a fini mieux qu'eux, on est revenus, nous. Et c'est une légende, hein, ça a été écrit par Shakespeare, je crois, Roméo et Juliette. Et je me souviens qu'il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'est que je ne pouvais entrer dans la chambre si je n'avais pas la bonne carte magnétique. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus de clé, c'est des cartes magnétiques. Et j'ai regardé un peu, parce que la porte me paraissait vraiment solide. Et en fait, il y avait 5 points qui sortait de la porte et qui rentrait dans le montant de la porte. Elle était inviolable, cette porte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je mets ça à la sauce spirituelle, c'est-à-dire que je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Je ne peux pas entrer dans la chambre où Dieu se trouve parce que je suis séparé de lui à cause de mon péché. Et pour entrer dans la chambre, j'ai besoin de la bonne carte, si je puis dire. Et eux, ils enseignaient ça. Ils disaient, tu ne peux pas entrer dans le royaume, dans la chambre où tu vas trouver l'intimité avec Dieu, par tes propres œuvres. À l'époque, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, ce qui était enseigné, c'est qu'on entrait dans le royaume. On était sauvé à travers les œuvres de la loi, à travers tout ce que Moïse avait prescrit, les 10 commandements, et je vous passe. Vous voyez ? Et la loi montrait que ces gens étaient incapables de se sauver eux-mêmes. Qui donc n'a jamais péché ? Qui donc n'a jamais volé ? Qui donc n'a jamais menti ? Qui donc ? Vous savez que lorsqu'on se regarde, et si on se regarde clairement dans la glace, et honnêtement devant la glace, si on a ne serait-ce qu'une minute d'honnêteté par rapport à ce que nous sommes, en nous regardant, nous dirons que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle qui est annoncée ici par le peuple, dans le temple et dans les maisons, il dit, vous êtes sauvés non pas par vos œuvres, mais parce qu'un jour quelqu'un est venu sur la croix, il s'est fait homme, c'est Dieu lui-même qui se fait homme, qu'il descend sur terre, semblable à nous, lui il ne pêche pas, et c'est comme s'il y avait un transfert de condamnation, tout le poids. Tout ce que tu dois recevoir comme, si je puis dire, récompense de ce que tu as fait dans ta vie. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Tout ce que tu aurais mérité de recevoir, Jésus l'a pris sur la croix pour tes péchés et les morts. Voilà ce qu'ils annoncent. Et ils annonçaient ça dans le temple et dans les maisons. Il y avait une action combinée. Et l'Église primitive s'est construite sur deux bases qu'il nous faut retenir. Elle s'est construite sur le temple, le lieu, deux lieux, le temple et les maisons. Le ch'ti groupe, tiens, je me suis raté. C'est mon côté rebelle, Jean-Rubon, je suis désolé, c'est pas grave. Le groupe de maison est efficace contre le silence. David dit ceci. Tant que je me taisais, mes os se dérobaient. Tant que tu ne déclares pas les choses, tant que tu ne mets pas ta carte devant le truc magnétique pour ouvrir la porte, tes os se dérobent, tu es à l'extérieur. Et quand on se tait, on permet à la maladie de nous ronger de l'intérieur. Tous les gens qui ont fait l'expérience d'une rencontre, d'une conversion, enfin, ou d'une connexion avec Dieu à un moment donné, vous diront cela. Tant que je me taisais, tant que je fermais la bouche, mes os se consumaient. J'étais rongé de l'intérieur. La seule différence entre celui qui est connecté avec Dieu et celui qui ne l'est pas, c'est que celui qui est connecté avec Dieu, qui est en relation avec Dieu, lui ou elle, n'est plus rongé de l'intérieur. Une première idée, c'est que tu ne bâtis rien lorsque tu gardes le masque. Il y a tellement de personnes qui gardent le masque dans leur vie. Tellement de personnes qui disent « Oui, je vais bien. Oui, ceci. Oui, cela. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. » Je me souviens que peut-être une année avant que moi je rencontre le Seigneur, donc c'est il y a bien longtemps, il y avait un collègue de travail, mon épouse, qui vient me voir sur le parking. Il est en train de parler du Seigneur à mon épouse au travail, ce que je n'aimais pas du tout. Je dis, qu'est-ce qu'il fait cet homme à côté de ma femme ? Non mais, c'est la mienne, it's mine. She's mine, pardon, pas it, she's mine. C'est pas un objet, Marie, ça, c'est personne. J'ai programmé en anglais. Duolingo, vous connaissez pas ? Bonne application, je suis tous les soirs. Et pourquoi je dis ça? Oui, et donc quand je voyais cet homme lui parler du Seigneur, un jour il vient me voir et puis il me dit, tu sais, tu as vraiment besoin de Dieu. Il me raconte ce que je viens de vous raconter. Et vous savez, j'ai eu le culot, mais vraiment je peux vous dire, le culot de lui dire, mais tu sais, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais en réalité, c'est la façade que je lui ai donnée pour ne pas me sentir obligé de l'écouter, mais en réalité, au fond de moi, il y avait un besoin profond de me rapprocher de Dieu. Souvent, les gens vont leur parler de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Guy Georges qui a voulu offrir un Nouveau Testament au restaurant il n'y a pas longtemps, au mois de septembre. Il va au restaurant et puis il y a un monsieur qui dit, il lui parle de Dieu. Il dit, je vais vous offrir un Nouveau Testament. Il me dit, monsieur, je suis athée. Ben, il dit, justement, n'imaginez pas quand même que je vais aller donner une Bible à un croyant. Et vous savez, beaucoup de personnes portent les masques. Et tu ne peux pas bâtir dans ta vie tant que tu gardes le masque. La première des choses qui doit tomber en nous, c'est notre masque. Il arrive souvent que nos relations voient en nous alors que nous ne voyons rien. Vous avez déjà remarqué ça? Je répète parce que je... Vous êtes réveillé ou pas? Il arrive souvent que nos relations voient ce qu'il y a dans notre cœur, voient ce qui se passe alors que nous ne voyons rien par rapport aux circonstances. Vous avez déjà remarqué ça? Moi, j'ai remarqué ça parce que j'ai la chance d'avoir une épouse et c'est la plus belle femme. Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Tu me couperas aussi là parce que j'aurais trop peur qu'elle s'en serve après. Mais je sais que dernièrement, j'étais pas bien. Eh ouais, c'est pas parce qu'on est chrétien que tout va bien et que tout marche sur des roulettes, d'accord? Et puis à un moment donné, elle m'a dit, c'est marrant parce que je ne voulais pas entendre mon propre cœur. Il a fallu que ce soit mon épouse qui vienne me donner des choses. Vous comprenez ça? Et souvent, les situations que nous vivons, le mal-être que nous avons en nous, nous aveugle. Nous sommes aveuglés sur notre propre cœur. Et lorsque quelqu'un de l'extérieur, en qui tu as confiance bien sûr, quelqu'un qui a de l'amour pour toi, tu sens son amour, la personne vient regarder en toi, là, ça peut changer ta vie. Et tu es stupide, je dis bien, je pèse mes mots, tu es stupide lorsque tu ne laisses pas les autres regarder en toi. Tu es déjà stupide lorsque tu ne laisses pas Dieu regarder dans ton cœur, mais tu es encore aussi et surtout stupide lorsque tu ne laisses pas ton entourage regarder en toi. Il arrive aussi que des personnes ne voient, que personne ne voit, toi ou les autres, et que Dieu puisse, par ce qu'on appelle les dons spirituels, ça je parle aux chrétiens, que tu puisses en tout cas regarder dans ton cœur. Il peut le révéler. Il peut révéler des choses dans ton cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi, dernièrement, ça m'est arrivé à la maison en faisant une préparation au mariage. J'ai prié, je ne savais même pas que je priais sous l'inspiration de Dieu. Et la personne pour qui j'ai prié, elle a dit à sa future épouse, la personne a dit, mais comment il peut savoir ça? C'est parce que, elle lui a répondu, c'est parce que Dieu peut parler comme ça aussi. Et vous savez, c'est dans des petits groupes comme ça qu'on peut vivre aussi des choses. Le fer s'aiguise par le fer et un homme ranime le visage de son ami. J'aime bien ce proverbe. Le frère s'aiguise par le fer. C'est-à-dire qu'on peut s'aiguiser les uns les autres. On peut se fortifier les uns les autres. On peut se fortifier les uns les autres. Et tu vois, David, ta prière pour Pauline à ranimer le visage de ton ami. Ce que tu fais dans le groupe de maison, ta prière ranime le visage et une famille entière. Et ça, c'est puissant. Alors, le ch'ti groupe, j'ai insisté, il faut que tous les membres de Betsalel soient en parfait accord avec cette vision. Ça, je parle à cette église. Ici, il y a 4 groupes de maison. Donc, visiblement, c'est une église internationale. Si vous parlez portugais, brésilien, enfin c'est la même langue, mais espagnol, belge, non mais francophone, hein. Ah, on s'entend, hein, on ne va pas tout mélanger quand même. Moi, je suis des Flandres, hein, je suis désolé, mais... si vous parlez, quoi encore ? Ch'ti ? Eh bien, sachez en tout cas qu'ici, il y a 4 groupes de maisons, et on souhaite vraiment que vous puissiez vivre ces temps dans les groupes de maisons. Parce que lorsque vous allez dans ces groupes de maisons, vous allez trouver quelqu'un qui va vous écouter. Vous allez trouver quelqu'un qui va prier pour vous. Vous allez partager vos peines, vos joies. Et je peux vous dire, c'est exactement ce qui se passe dans les groupes de maisons. Il faut autoriser les membres à former des petits groupes où ils apprendront à se connaître les uns et à prendre soin les uns des autres. Vous savez, si on prend, et c'est d'une manière théorique, d'ailleurs c'est ce que Jésus a fait, combien de disciples avait-il ? Combien de... Il avait ? D'apôtres. 12. Vous savez que, humainement parlant, on est limité, un, dans notre temps, dans notre capacité de prendre soin des autres. Si vous imaginez une église ou un groupe, d'ailleurs la société d'ailleurs est souvent formée comme ça, si vous demandez que une personne s'occupe de 60, 70 personnes, vous allez l'épuiser. Parce que la personne, elle est en incapacité d'avoir du temps et de l'énergie pour s'occuper de tout le monde. Et on s'en rend compte encore mieux quand on a des enfants qui arrivent. Parce que là, il faut s'occuper de son job, de sa maison, du linge. Hein, je connais tout ça, hein, Michel. Et il faut s'occuper de tout. Et encore, il y a le petit bébé qui est là. Il faut s'occuper du bébé. Et si en plus, il faut s'occuper encore d'autres personnes, vous imaginez, c'est ultra compliqué. Et donc, la vision, là, qui vous est donnée, c'est que c'est dans les groupes qu'on apprend à prendre soin les uns des autres et à s'occuper des uns et des autres. Les thèmes ne sont pas primordiaux. Moi, j'avoue que s'il y a un thème qui va parler, je sais pas moi, du changement d'heure, été ouvert. Je sais pourquoi. Lui, il était encore l'heure d'hiver quand il est né, Raphaël. L'heure de différence, c'est peut-être ça. En fait, les thèmes ne sont pas primordiaux. Ce qu'il faut, c'est que les masques tombent. Il faut créer des relations avec les gens. C'est pas de dire, oh ben on va se retrouver, on va lire 5 minutes la Bible, on va prier 5 minutes et après on se quitte. Non, c'est de bâtir des relations. Et il faut autoriser et permettre que les petits groupes deviennent des centres pastoraux. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, prenez soin les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres, d'accord ? Il faut promouvoir et encourager tous à intégrer un groupe. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi. Hein. Je parle pour les gens de l'Église et puis d'autres églises. Je ne sais pas où vous allez, ce que vous faites, mais recherchez un groupe de prière. Recherchez un groupe où vous allez bâtir des relations. Ça va changer votre vie, je peux vous le dire. Il faut que les petits groupes soient couverts par des pasteurs ou responsables. Là, c'est le beau barbu qui est là-bas, JR. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Il faut que les responsables des groupes de maison soient formés. Donc, c'est ce qu'on va continuer à faire. Oui, parce qu'il faut faire attention à s'allier, si je puis dire, à communier avec des personnes de confiance. Vous êtes d'accord avec ça ? Parce que parfois, il y a des faux prophètes. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, il y a tellement de courants qui circulent et il faut vraiment que ces gens-là soient bien formés. Enfin, il faut éliminer les dates qui ne conviennent pas à ce type de rencontre. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Vous essayez de réunir quelqu'un pendant l'été, ça va être compliqué. Hein ? Ou pendant les vacances scolaires. Oh là, j'ai osé. Ça pète dans les petits groupes. Ça, c'est mon côté un peu... Pourquoi je l'ai fait ? Mais c'est sciemment, hein. Je n'ai pas fait ça pour vous faire rire. D'ailleurs, ça ne fait pas rire beaucoup de personnes. Je vois que mon humour ne passe pas très bien. Ça pète dans les petits groupes. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça se retient facilement. P-E-T-E. Prière. Un lieu où je vais prier. Un lieu où je vais prier pour les uns les autres. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres groupes de maison, mais dans le groupe dans lequel je vais, eh bien, souvent, on tire au sort quelqu'un pour qui on va prier dans le mois qui suit. Et pendant un mois, on prie pour la personne. Et moi, je vois vraiment des choses changer. Et je persévère quand je ne les vois pas. Mais il y a des choses qui bougent quand on prie les uns pour les autres. C'est un moyen de supporter. Un temps où on parle de la Bible, de l'Écriture. Un petit temps, des fois. Des fois, ça prend plus de temps. Parfois, ça peut être un débat. Parfois, on peut discuter. théologie, pas trop, parce que c'est pas la théologie qui sauve, c'est le salut par la grâce. Et trouver un temps aussi, afin qu'on puisse trouver la prochaine étape. Vous savez que nous sommes tous en chemin dans la vie. Et dans notre vie spirituelle, on est en chemin. La question que je me pose souvent, moi, et je le fais toujours sur le plan professionnel, quand j'ai quelqu'un qui arrive sous mes ordres, je lui dis, il est là et où vais-je l'amener ? Il est ici, quelle est la prochaine étape de formation ? Quelle est la prochaine étape qu'il doit passer pour être encore meilleur, meilleur, meilleur ? Vous savez que Dieu, il a toujours ce projet de vous sauver, de vous libérer, de vous faire passer des ténèbres à la lumière. Mais comme dit l'apôtre Paul, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes comme des petits bébés. Nous mangeons un peu de lait, comme a fait Raphaël. Mais Raphaël, ça va être un homme un jour. Et il est là-bas. Ça va être un homme, il va manger de la nourriture solide, il sera fort, il sera capable lui-même de nourrir d'autres personnes. Vous savez que lorsque Dieu vient vous chercher, ce n'est jamais pour que vous restiez dans le landau. Et je pense que quand on est en petit groupe comme ça, qu'on partage, on peut vraiment découvrir la prochaine étape dans laquelle Dieu veut nous faire amener. Quelle est ma prochaine étape ? Peut-être que c'est plus de liberté, peut-être que je vais plus de consécration, plus de Dieu dans ma vie. Vous croyez que tous les gens, que les gens qui sont dans des petits groupes comme ça vivent et sont parfaits ? Non, au contraire, ensemble, on se dit, tiens, je découvre ça en toi et je trouve ça extraordinaire que tu as reçu tel don ou telle capacité. Mais je t'encourage à aller plus loin. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là que je veux amener les choses dans cette église. Trouver un temps pour trouver la prochaine étape. Et enfin, un encouragement. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Là, on s'encourage les uns les autres, mais c'est tellement éphémère. On va passer une heure et demie ensemble. Bon, on va boire un petit verre après, ok. Allez, 2 heures, quoi. 2 heures ensemble, est-ce que c'est pendant ces 2 heures-là que je vais vraiment écouter les uns les autres ? On est tellement nombreux. Et vous savez, quelqu'un de découragé, la première chose dont il a besoin, c'est quoi ? Vous savez ? C'est être écouté. Il écoute, il est écouté. Quand j'ai mal au cœur, il y a quelqu'un qui est là. Et j'ai vu ça, moi. J'ai vu ça dans les petits groupes. J'ai vu des gens qui pleuraient, qui avaient de la peine. J'ai vu, par exemple, le cas d'une personne qui n'avait plus de relation et qui souffrait de ce manque de relation. Et j'ai vu, pas simplement, oui, on va prier pour toi, non, j'ai vu des gens l'écouter. J'ai vu des personnes prendre à cœur sa situation. Et j'ai vu ces personnes redemander des nouvelles quelques mois plus tard. Mais si ça n'encourage pas. Si tu veux grandir dans la foi, si tu veux vraiment que des choses s'arrangent, si tu veux te sentir encouragé, cesse de regarder le culte dimanche matin chez toi une fois par semaine. Je ne nie pas l'efficacité de ça, mais ce n'est pas à travers ça que tu vis des relations. D'ailleurs, pour ne pas la citer, cette église à Mulhouse, souvent j'entends Samuel Pertschmidt faire une chose. Il dit tout le temps, vous reverrez ça dans les groupes de maison. Souvent, ses enseignements, il les déploie dans les groupes de maison. Pourquoi ? Parce que lui, il a compris. Cet homme a compris, cette église a compris que c'est dans les groupes de maison qu'on bâtit, pas à coup de prédication. Et pourquoi je vous dis ça ? Vous voyez là, comme la vie peut nous inspirer parfois. On a envie d'aller dans un endroit, on a envie de se diriger vers quelque chose, et seul, on ne peut pas y arriver. Là, on a une image parfaite de ce que Dieu voit pour l'église. Pour les enfants de Dieu, pour ses propres enfants. Que fait-il là ? Il voit, c'est une fourmi, c'est ça ? Cette petite fourmi avance, elle essaye d'avancer, elle y arrive difficilement. Elle est un peu à la traîne même, vous voyez ? Et puis, il y a, si je puis dire, Satan qui vient aspirer un grand coup sur sa vie. Et pourtant, elle résiste. Et pourtant, elle essaye d'avancer, mais la puissance d'aspiration est plus forte que ses propres capacités. Et regardez dans cette vidéo ce qui est en train de se passer. c'est qu'à un moment donné, ils s'unissent et s'organisent ensemble. Ils sont liés ensemble. Et c'est un comment, c'est un tapir, ça ? C'est à quoi, lui ? Enfin, la bébête. La bébête, elle aspire et elle finit par tomber. Il y a quelque chose que je voudrais mettre sur votre cœur ce matin. Et déposer dans votre cœur. Et je souhaite que ce soit le Saint-Esprit, parce que si moi qui les dépose, ça ne va pas aller. Mais si le Seigneur dépose ça dans votre cœur. Maintenant, réfléchissez un instant. En quoi êtes-vous aspiré dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous aspire et qui vous empêche d'aller là où vous avez envie d'aller ? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui ? Si je puis dire, d'être libre. Il y a deux choses qui vous empêchent d'être libre. Peut-être que vous n'avez pas encore ouvert la bonne porte. Peut-être que vous n'avez pas encore utilisé la carte de Jésus-Christ pour entrer dans la chambre de communion avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est que peut-être que vous vivez votre foi d'une manière trop individuelle et que vous avez besoin de retrouver un groupe de personnes avec qui vous allez prier, avec qui vous allez vous encourager, avec qui vous allez peut-être trouver votre prochaine étape. Et peut-être aussi des personnes avec qui vous allez découvrir la Bible, la richesse de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant d'ici ? Qu'allez-vous faire là, ce matin ? Qu'est-ce que Dieu veut déposer dans votre vie ? Allez-vous continuer à vous laisser aspirer ? Vous empêcher d'avancer ou allez-vous faire le bon choix ? De suivre le Seigneur et de vous unir avec un groupe de chrétiens. Je ne vous parle pas de cette église, je veux vous unir avec un groupe de chrétiens. Qu'allez-vous faire ? On peut prier si vous voulez ? Ça vous arrange de prier ? Père, je prie. Parce que ta parole nous dit que nous sommes privés de ta présence. Privés de pouvoir vivre une vraie relation avec toi. Parce que nous sommes pécheurs. Parce que nous voyons bien que même si nous on veut faire le bien, on fait le mal. Et parfois même on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire. Et ce matin, Seigneur, nous venons en te demandant que tu puisses nous permettre d'être en communion avec le Père. Nous avons bien vu que la seule possibilité que nous avons, c'est d'utiliser la bonne carte, à savoir Jésus-Christ, ton Fils. Tu as dit, Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a pas d'autre moyen par lequel je puisse être sauvé que le Jésus-Christ. Et si vous n'avez jamais fait ce pas, je vous invite à le faire tout simplement. Et si vous êtes d'accord avec ma prière, vous dites simplement « Amen » à la fin. D'accord ? Père, je veux me tenir en communion avec toi. Et je voudrais bien entrer dans la chambre avec toi. Tu vois ma vie. Tu vois mon cœur, mes pensées. Je ne veux pas faire comme le roi David qui se taisait et qui laissait le mal se ronger en lui. Mais je veux trouver la paix au fond de mon cœur. Je veux trouver la quiétude. Je veux trouver la grâce. Je veux cesser d'être tourmenté au niveau de mes pensées. Je veux cesser d'être angoissé sans cesse. Je sens l'angoisse en moi, Seigneur. Et je veux être libéré de cela. Et ce matin, je viens pour te dire, Père, que j'entre dans ta maison. Et je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour toute ma vie qui n'a pas été comme toi tu le voulais. Mais je désire que ce jour soit un jour nouveau. Je veux entrer, et tu as fait cette promesse, Seigneur, qu'il y aurait comme une communion entre toi et moi. Et c'est ce que je désire ce matin. Te découvrir, Seigneur. Et marcher avec toi. Et si vous êtes d'accord avec ça, vous dites Amen. Et ce matin aussi, je veux prier, Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi, mais en tout cas, je ne veux plus vivre ma vie chrétienne seule, isolée. Je ne veux plus vivre ma vie chrétienne ou ma vie de foi en ne vivant pas les choses avec les autres. Souvent, Satan touche les relations. Il veut briser les relations. Et moi, je ne veux plus ça ce matin. Et ce matin, si tu as été brisé dans tes relations, entends le témoignage qui t'a été donné tout à l'heure. Dieu peut rétablir des relations. Dieu peut reconstruire, même lorsque les relations ont été brisées. Et je prie maintenant, Seigneur, emmène-moi vers un groupe de prière. Emmène-moi vers des amis. Emmène-moi vers des personnes avec qui je pourrais bâtir ma vie. Ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amen.